Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous et bienvenue à ce culte du dimanche 7 décembre. Un culte merveilleux qui nous attend. Nous allons entreprendre d'étudier certains aspects des Écritures qui vont nous permettre d'être équipés pour une vie plus glorieuse, plus merveilleuse et plus forte. Amen. Et donc, nous devons voir dans les Écritures ce que Dieu nous appelle à être, ce que Dieu nous appelle à faire et ce que Dieu nous appelle à réussir. Parce que vous voyez, l'être humain va donner une définition de la réussite. Et cette définition-là peut changer d'une culture à l'autre. Par exemple, dans la culture occidentale, la réussite va surtout se traduire au travers d'une ascension professionnelle notoire. C'est surtout comme ça qu'on évalue la réussite. Dans d'autres cultures, par exemple, ils évaluent la réussite d'une femme sur le nombre d'enfants qu'elle a. Plus elle a d'enfants, mieux c'est vu. Vous voyez ? Qu'est-ce que la réussite selon Dieu ? La réussite selon Dieu, c'est d'arriver devant Dieu en ce jour final et de pouvoir dire « Oui, j'ai fait ce qu'il m'a appelé à faire ». C'est ça la réussite. La réussite ne se mesure pas en termes financiers ou en termes carriéral. Elle ne se mesure pas dans ces, dans ces choses-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu ne cherche pas à nous donner d'argent, par exemple. Il ne cherche pas à nous donner de la santé. Il ne cherche pas à nous donner un travail. Il cherche à nous donner la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Parce que c'est cette parole-là qui va faire qu'on réussit. Amen. Et la chose étant, c'est que bien sûr que cette parole amène toutes ces bénédictions qu'on trouve en Dieu. Cependant, il faut comprendre quelque chose. C'est que cette même parole-là doit être agie. Elle doit être agie. On doit agir en conséquence d'elle. Donc j'aimerais qu'on étudie ça aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu peut arriver à beaucoup de monde. Elle arrive constamment à beaucoup de monde. Qui aujourd'hui ne sait pas qui est Jésus de Nazareth ? Vous voyez ? Même dans les autres religions, ils essaient de le copier. Vous avez remarqué ça ? C'est le seul. C'est le seul qui est appliqué dans énormément de religions. Même l'hindouisme arrive à accepter Jésus d'une manière. Parce qu'ils disent que c'est peut-être un des dieux. Vous voyez ? Dans l'islam, ils disent c'est un prophète. Mais il n'y a que nous qui disons c'est vraiment le Fils de Dieu, c'est Dieu incarné. Si vous connaissez, il y a une loi philosophique qui dit que la plus haute estime attribuée à quelqu'un, c'est la juste. Parce qu'on ne peut pas attribuer une estime à une personne qui ne l'a pas vraiment. Donc par exemple, si deux personnes connaissent Madame X, que moi je la connais bien, l'autre la connaît moins bien, je vais pouvoir lui attribuer une meilleure estime parce que je la connais mieux. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire ce qu'il y a de bien chez elle, plus qu'une personne qui ne la connaît pas. Et donc nous qui connaissons le mieux Christ, c'est nous qui arrivons à dire la plus haute estime, c'est-à-dire qu'il est Dieu lui-même. C'est beau, hein ? Donc ça veut dire que c'est nous qui avons raison sur Christ. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une foi, F-O-I, donc la foi de Dieu, amen, qui est à l'œuvre. C'est pas dans les versets, Natacha, mais tu peux prendre 2 Pierre chapitre 1 et verset 2. 2 Pierre chapitre 1 et verset 2. Parce que j'aimerais qu'on comprenne que Dieu nous a donné un outil nécessaire à la croissance spirituelle. C'est la foi. Nous avons la foi. Dites, j'ai la foi. Et la Bible nous montre clairement que nous avons reçu la foi. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu. Oh pardon, c'est le verset 1. Excuse-moi, autant pour moi. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous. Donc là, vous voyez, j'aimerais que vous voyez quelque chose. Il dit, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareille valeur, de pareil prix, de pareille puissance. Il dit donc, la foi que vous avez reçue, vous qui lisez ce texte, est la même que j'ai reçue avec les apôtres. Notez ce qu'il dit. Il dit, moi, Pierre, le Pierre, j'ai reçu une foi et vous avez reçu en partage avec moi une foi de pareil prix. Donc vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez la même foi que Pierre. Vous avez la même foi que Paul, que Jean, que tous ces grands apôtres. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas, nous n'avons pas les mêmes résultats qu'eux ? C'est une question légitime. Hein ? Vous savez, Pierre, les miracles qu'il faisait ? Okay. Comment ça se fait qu'on n'avait pas les mêmes résultats, qu'on n'a pas les mêmes résultats que lui encore ? Parce que la foi est l'essence, la Bible nous dit, amen. Donc c'est le début. J'aime bien qu'elle dise c'est l'essence, parce qu'en français, ça donne que essence, c'est aussi la chose qui fait aller nos voitures. Et l'essence peut être dans une voiture, mais si vous ne démarrez pas la clé, rien ne va se produire. La question, c'est qu'est-ce que vous faites avec la foi que Dieu vous a donnée ? Donc la Bible nous dit, par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. Donc même votre foi que vous avez vient de Dieu. Amen. Ce qui montre qu'elle n'est pas humaine, qu'elle n'est pas basée sur des propres réussites ou des propres assomptions. Donc j'aimerais qu'on prenne Hébreux 11, 6, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, verset 6. Où la Bible nous montre cette merveille, regardez. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Impossible. C'est pour ça que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc en fait, l'impossibilité existe dans le monde du sans-foi. Voyez ? Mais une fois qu'on est projeté dans le monde de la foi, l'impossibilité disparaît. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est beau, hein ? Dites Dieu est mon rémunérateur. J'aimerais qu'on voie Éphésiens 2, 8. Donc vous voyez que cette foi est disponible. Dites, j'ai la foi. Regardez. Il dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Écoutez bien quelque chose. Il y a deux éléments qui font que l'enfant de Dieu est victorieux. D'un côté, la grâce qui vient de Dieu. D'un côté, la foi qui est notre réponse à la parole de Dieu. OK ? Et ça, il faut comprendre. Est-ce que la foi fait bouger les montagnes ? Oui, absolument. La Bible dit même, Jésus dit, si vous n'aviez pas de doute dans votre cœur, vous pourriez dire à une montagne de se jeter dans la mer. D'accord ? Donc, il dit quelque chose de merveilleux. Et il ne dit pas ça dans le vide. Hein. Il dit ça sérieusement. Hein. Et il faut comprendre quelque chose. Est-ce que la foi peut tout accomplir ? Non. Elle peut n'accomplir que ce que Dieu a rendu disponible pour nous. D'accord ? Donc, par exemple, si demain, il y avait eu un événement comme ça, il y avait une femme... Il y a un pasteur américain qui est très connu qui s'appelle Kenneth Copeland. Et il y avait une femme qui voulait absolument le marier. Le problème, c'est qu'elle est déjà mariée. Et il est déjà marié avec Gloria Copeland depuis 50 ans. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit, Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, elle a commencé à dire, je vais proclamer que je suis sa femme. Au nom du Seigneur Jésus, je suis la femme de Kenneth Copeland. Et elle a même fait un mariage dans l'esprit comme acte prophétique. Je rigole pas. Hein. Donc elle a fait un mariage où il y avait une hérégie qui représentait Kenneth Copeland. Elle disait, je le marie dans l'esprit et ça s'accomplit au nom du Seigneur Jésus, ce que je veux, je l'ai. Et comment est-ce qu'elle faisait pour Gloria Copeland qui était là ? La Bible donne seulement une seule possibilité où un homme, après avoir été marié, peut se remarier. C'est si sa femme décède. D'accord ? Donc elle disait, au nom de Jésus, que Gloria meurt. Vous voyez ? Est-ce que vous pensez que la foi, aussi forte soit la foi de cette femme au point qu'elle aille faire un mariage spirituel, que cette foi portera quelque chose ? Non, parce que Dieu, dans sa grâce, n'a pas fourni l'adultère, il n'a pas fourni le meurtre, il n'a pas fourni la convoitise du mari d'une autre femme. D'accord ? Donc Dieu ne fournit pas ça. Si par exemple quelqu'un dit « j'ai la foi que je vais aller braquer une banque et personne ne va m'attraper », Dieu n'a pas fourni le vol dans la grâce. Vous voyez ? C'est pour ça que la parole... est importante pour nous pointer. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous sachions les choses que Dieu nous a librement données. Si on peut prendre ce verset, en fait. Donnez-moi 2 secondes. Afin qu'on sache, vous voyez, il y a un besoin de savoir. Un instant. Je dois vous donner 2 secondes. Ça doit être dans 2 Corinthiens. La Bible nous le montre clairement qu'on a reçu l'Esprit de Dieu pour cette raison. Là, vous pouvez dire, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Un instant. Hein. Parce qu'il précise. Et dans le contexte, c'est très intéressant parce que, regardez, c'est 1 Corinthiens 2, oui, c'est bien ça, 1 Corinthiens 2, le verset 12. C'est très intéressant. Il va comparer l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Et il va dire, l'Esprit de Dieu vous montre ce que vous avez reçu. Ce qui, par extension, vu que c'est une comparaison, nous montre que l'Esprit du monde montre aussi aux gens du monde ce qu'ils ont reçu, mais de négatif. Vous voyez ? Regardez. Mais nous, dites-moi, mais nous, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu. Et il précise pourquoi on l'a reçu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu... Pardon, que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Donc Dieu vous a donné des cadeaux. Dieu vous a donné des choses gratuites et librement. Il vous a donné la foi, il vous a donné l'espérance, il vous a donné la santé, la prospérité, la joie, la croissance, la discipline. Vous voyez ? Et on doit savoir que Dieu nous a donné ces choses. Et qu'est-ce que l'esprit du monde y révèle aux autres gens du monde que le diable leur a donné ? Destruction, perversion, perte. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent à méditer sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est ce que les gens appellent l'inquiétude. Mais l'inquiétude, c'est de la méditation. C'est-à-dire que quelque chose n'est pas arrivé, ça pourrait peut-être arriver, et ils vont méditer sur cette possibilité encore et lui donner vie. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit « Ne vous inquiétez de rien ». Pourquoi ? Parce qu'il savait la puissance dans la visualisation de l'inquiétude. Quand vous visualisez la parole de Dieu, vous commencez à agir la parole de Dieu. De la même manière, si vous visualisez l'inquiétude, vous allez agir en conséquence d'une inquiétude. Et ça va amener la destruction, toujours. Ok ? Continuons juste alors maintenant avec le Romains chapitre 10 et verset 17. C'est pour ça que la parole de Dieu est cruciale pour votre croissance. Regardez ce que la Bible dit. Elle dit « Ainsi la foi est », donc du verbe « exister » on pourrait dire. Hein. « La foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est, c'est impliqué, par la parole de Dieu. » Une autre version va dire « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc nous sommes censés entendre cette parole pour que cette foi se produise en nous. Pourquoi ? Parce que cette parole va nous montrer, elle va nous donner une image de ce que Dieu nous a vraiment donné. Vous voyez ? Elle nous a donné une image de discipline, de réussite. Jésus a dit « Entrez par cette porte qui est petite et étroite ». Notez bien qu'il n'a pas dit que peu de monde peuvent passer par là. Le fait qu'elle soit étroite ne veut pas dire que c'est difficile d'y rentrer. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule manière d'y rentrer. Vous voyez ? Mais une porte étroite, si on met un bon flux, il peut y avoir des milliers de personnes qui y passent chaque jour. Et ils sont en train de vous dire « Ne suivez pas la foule qui va à sa destruction ». Beaucoup de gens vont à leur destruction constamment. Par leur impudicité, par leur manque de discipline. Et vous savez, tout le monde semble faire ce que tout le monde fait. Je sais que ça paraît un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais tout le monde fait ce que tout le monde fait. Vous voyez ? C'est normal de faire ci, et ensuite on avance comme ça, c'est normal de tomber malade, c'est normal d'être des fois fâché, c'est normal d'avoir un jour où ça ne va pas. C'est faux, la Bible ne dit ça nulle part, vous voyez ? Et si on croit ces choses-là, on suit cette foule et on passe par ce large chemin, vous voyez ? Ce large chemin, ça veut dire qu'il y a plusieurs distinctions et déclinaisons possibles du même faux chemin. Vous voyez ? Donc il y a des gens qui vont aller au travers de la destruction, de l'autodestruction. Par exemple, ils vont prendre des drogues. Mais ce même faux chemin peut passer par l'auto-justification, où les gens vont dire « je suis une tellement bonne personne, je ne peux que réussir ». Vous voyez ? Et le chemin qui est du Christ est étroit, non pas parce qu'il est difficile à marcher en tant que tel, mais parce qu'il est unique. Vous voyez ? Il y a une seule manière d'être en Dieu, c'est par Jésus-Christ. C'est pour ça que les autres fausses religions n'arrivent pas à changer le cœur des gens. Les gens restent mauvais, vous voyez ? Les gens restent défaits. Les gens ne sont pas construits hors de Jésus-Christ. Et après, des gens qui demandent, est-ce que les dénominations chrétiennes différentes l'une de l'autre, est-ce qu'elles arrivent à construire les gens ? Oui, tant que c'est des gens qui croient en Jésus-Christ comme étant Dieu incarné, ils peuvent construire des gens. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a plusieurs déclinaisons du même don, la Bible nous dit, et plusieurs parties au corps du Christ. Par exemple, il y a des églises qui vont plus convenir à d'autres types de personnes. Non pas qu'elles soient supérieures en termes théologiques, mais qu'elles ont une approche, par exemple, de certaines questions qui vont les aider dans leur vie quotidienne et vont les amener à Christ. Vous voyez l'idée ? Gloire à Dieu. Et donc la foi vient, elle arrive, vous devez mettre la parole pour que la foi soit élevée de l'intérieur de votre esprit jusqu'à dehors. Rappelez-vous, nous sommes esprit, âme, corps. La foi a été déposée à l'intérieur de notre esprit par la grâce de Dieu. Et donc maintenant, on doit utiliser cette foi, parce que cette foi peut être là et être stagnante et inutile. Même la Bible dit « morte ». Donc, est-ce possible d'avoir quelque chose de mort qui revient à la vie ? Oui, bien sûr. Mais la question est, que les gens qui n'ont pas une foi activée par la parole de Dieu et par l'action qui en suit. Regardez, il faut comprendre quelque chose. Jésus a dit qu'on doit être disposé à recevoir sa parole au travers de la parabole du semeur. Il y a trois personnes, il y a les gens qui ne comprennent pas. Il dit en fait, il y a quatre types de personnes. Ceux qui reçoivent la parole, ça c'est simple. Et après il dit à ceux qui la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune profondeur dans leur réflexion. Et la parole, elle meurt. Ensuite, il dit, il y en a des où il y a des choses qui viennent étouffer cette parole en eux, les problèmes de la vie. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il faut arrêter de croire que Dieu envoie la maladie ou la pauvreté. Hein. Ben, c'est des problèmes de la vie, ça vient étouffer la parole. Vous voyez ? La parole de Dieu est étouffée quand quelqu'un est malade. Okay ? C'est jamais de Dieu ce genre de choses. Et après, il y a les personnes qui ne la comprennent pas et le diable vient la voler tout de suite. Vous voyez ? Après, qui est responsable de la compréhension ? Est-ce que c'est celui qui parle qui devrait s'assurer ? Ou est-ce que c'est celui qui écoute ? C'est les deux. C'est pour ça que vous, quand vous parlez la parole de Dieu à quelqu'un, assurez-vous qu'elle puisse la comprendre dans la manière dont vous la transmettez. Parce que si vous commencez à une personne qui n'a aucune idée de ce que c'est la Bible, vous dites ben, 2 Corinthiens 6, 9 dit ça, je ne suis pas sûr que ça va vraiment les aider. Par contre, vous pouvez dire, mais tu sais, Jésus, il a dit ça. Tu vois que c'est Jésus? Ouais. Par exemple, moi, j'ai une fois un ami qui s'est converti avant même de savoir que Jésus était mort sur la croix. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ils pensaient qu'il était juste allé sur la croix et que miraculeusement, il était redescendu. Vous voyez un peu l'idée? Donc, il y a un aspect beau là-dedans, dans le sens où il croyait à l'aspect miraculeux et l'amour de Dieu, mais il ne savait pas que Jésus était mort et ressuscité en Suisse. Ensuite, vous voyez? Donc, j'aimerais que vous compreniez, la foi, elle arrive, elle est quelque part, elle est à l'intérieur de votre esprit. Et elle sort de votre esprit quand vous méditez sur les Écritures. C'est pour ça que vous devez comprendre que les Écritures sont une attention, une source d'information qui rentre dans votre cerveau, qui pénètre votre intelligence et qui ensuite vont créer une image qui vous permettra d'agir en conséquence. Comment est-ce qu'on agit en conséquence? Laissez-moi vous donner quelque chose de simple. Il y a des gens qui ont des voitures électriques. Les voitures électriques ne sont pas optimales pour les longs voyages, les très longs voyages. Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'arrêter et la recharger un certain temps. Vous voyez l'idée? Donc une personne qui a comme visualisation, disons d'aller en Espagne depuis la Suisse, et qui a une voiture électrique, il va visualiser qu'il va en Espagne. Et s'il a une voiture électrique, il a été conditionné, vous voyez, par cette voiture électrique, à se dire, je dois trouver sur le trajet un endroit où je peux recharger ma voiture. Ce n'est pas comme une station-service où vous et moi, on s'arrête à la première venue. Eux, ils ont des stations spécifiques. Et donc, ces informations qui sont parvenues dans sa tête, cette manière dont il a de conduire cette voiture tous les jours, il sait ou elle sait qu'elle devra trouver une station de charge sur le chemin. Vous voyez un peu l'idée? Et donc, elle va agir en conséquence de ça, la personne. Elle va aller sur Internet. J'imagine que beaucoup de voitures maintenant électriques sont équipées d'une carte qui pourrait dire. Donc, elle va dire, voilà, j'ai tel machin. Elle a attentionné sur la batterie de la voiture. Vous voyez un peu ce genre de choses-là? Pourquoi? Parce que cet amas d'informations est parvenu à son intelligence qui lui permet de planifier et d'agir en conséquence avant même d'être arrivé au point final. Pourquoi? C'est ça l'enfant de Dieu. Vous voyez? Quand vous êtes dans la parole de Dieu et que ça vous donne une image de réussite, vous commencez à planifier cette image de réussite. Vous commencez à agir en conséquence de cette image. Et ces images, vous devez comprendre, vous avez un flux d'informations dans votre intelligence qui surpasse l'entendement. Vraiment. C'est juste qu'on n'en est pas constamment conscient. Mais si je vous dis, est-ce qu'il y a des sapins de Noël à l'entrée là? Oui, il y a des sapins de Noël, n'est-ce pas? Comment ça se fait que vous ayez cette image dans la tête alors que vous êtes juste passé? Parce que vous voyez, il y a tout plein de choses qui vous amènent de l'information constamment. La question c'est, votre source d'information doit être premièrement, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va construire cette image, vous voyez? Elle construit cette image de croissance, elle construit cette image de Christ, parce que la Bible dit qu'on a les yeux sur Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc on garde nos yeux fixés sur Jésus et on avance encore, on avance, on se charge de responsabilités, on se charge de choses, on se charge de personnes qui sur leur chemin tombent et n'arrivent pas à avancer. On les aide, on les tire, on va vers les gens et on va vers Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on observe quelque chose de merveilleux dans les Écritures. Jacques chapitre 2, versets 14 à 16. La foi doit être suivie d'une action en conséquence. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Si derrière, ils n'agissent pas en conséquence, ça n'a aucune puissance. Par exemple, il y a des gens qui frappent, par exemple, leur épouse, d'accord, d'une manière violente et disproportionnée. Ils ont beau dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime », l'action montre que ce n'est pas le cas. Je suis désolé de le dire comme ça, parce que c'est un fait. Si quelqu'un tabasse sa femme, il ne l'aime pas. D'accord? C'est un fait. Il est censé amener sécurité et croissance à son épouse, qui elle va pouvoir amener sécurité et croissance ensuite aux enfants. Il n'est pas censé lui faire du mal comme ça. Donc s'il le fait, puis que derrière il dit « je t'aime », aucune valeur, on est d'accord. Et le pire, c'est qu'après, madame, elle va être conditionnée à savoir au fond d'elle qu'il ne l'aime pas. Et donc, elle ne va pas lui dire des problèmes. Elle va pas lui dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez ce que la Bible dit à ce sujet. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi? Notez qu'il dit quelque chose. Hein, et qu'il n'a pas d'œuvre. La foi peut-elle le sauver? Regardez. Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours? Donc là, imaginez, vous êtes à l'église, il y a un frère ou une sœur qui arrive complètement dénudé. Et pas par obscénité, mais parce qu'elle n'a simplement pas l'argent pour des vêtements, cette personne, ou de la nourriture. et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il ? Il dit « C'est bien de parler, mais faites quelque chose. » Il y avait un truc qui était arrivé, qui était assez drôle, ça arrivait à un pasteur que je connais. Il était dans une église très traditionnelle et il y avait deux nudistes qui s'étaient convertis. Donc les nudistes, c'est les gens qui vivent tout nus. Et ils vivaient tout nus tout le temps. Et ils se sont convertis et ils viennent à l'église. Et il y avait donc ils avaient des vêtements très basiques, permettez. Et la jeune femme était extrêmement belle. Et donc du coup, elle arrivait à moitié nue presque à l'église. Et toutes les femmes voyaient leur mari et les condensaient comme ça. Allez, concentre-toi sur le culte. Vous voyez un peu l'idée. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est très très comique. Et donc les femmes ont commencé à la critiquer. Oh, j'arrive pas à croire ça. Comment elle vient d'une manière si obscène, tout ça. Et le pasteur dit, mais prenez-la dans votre groupe de femmes et parlez avec elle. Vous voyez? Et elles ont fait, oh non, on n'a pas envie, c'est une prostituée spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle a dit, non, je suis le pasteur, je vous oblige à la prendre dans votre groupe. Et donc, c'était comme ça, il y avait la fille presque de son côté et toutes les autres dames qui étaient là. Puis, vous avez un sujet de prière pour lequel on peut prier. Elle lève la main, la jeune fille, et puis elle dit, oui, moi j'ai un sujet de prière parce que, en fait, je ne sais pas si vous saviez, mais j'étais nudiste toute ma vie presque. Et en fait, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas d'argent pour m'acheter des vêtements. C'est aussi bête que ça. Et là, il n'y a personne qui a prié. Il y a tout le monde qui lui a donné des robes qui montaient jusqu'au cou. Vous voyez l'idée? Avec les manches et les gants qui vont avec. Vous voyez? Et le dimanche suivant, à l'église, elle était habillée, mais avec tout jusqu'aux oreilles. Donc vous voyez, il y a un aspect pratique. Cette jeune fille avait mis sa foi pour que Dieu lui donne des vêtements. Tout ce qu'elle a fait, c'est exprimer quelque chose. Et si les sœurs avaient dit « Oui, on va prier pour toi », alors qu'elles avaient plein de placards pleins, vous voyez comme c'est incohérent? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut dire « Je crois que Jésus-Christ est Seigneur, mais je ne vais pas du tout agir en conséquence. » C'est faux. C'est incohérent. Donc là, il dit « Quel profit y a-t-il si vous dites à vos frères et sœurs « Allez, va, tu es nu, mais chauffe-toi. » Et après, il dit « De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. » Notez bien qu'il ne dit pas qu'elle est absente. Il dit qu'elle est morte. Elle est infructifiante. Elle ne porte pas de fruits. Un arbre qui est mort est toujours présent physiquement. Il est juste infructueux. Regardez suivant. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Monte-moi ta foi sans œuvres et par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Notez ce qu'il a dit. Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Vous croyez en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Agissez en conséquence. Priez, élevez-vous, construisez-vous, avancez. Un enfant de Dieu progresse. Dites, je progresse à tous égards. Et là, c'est probablement un des versets les plus sarcastiques de toute la Bible. Regardez ce qu'il dit. Tu crois que Dieu est un, ou autrement que Dieu existe. Tu fais bien, les démons aussi croient ça. Mais eux, ils tremblent. Pourquoi? Il est en train de dire les démons, eux-mêmes, agissent en conséquence du fait qu'ils croient en Dieu. Ils tremblent quand ils entendent le nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il est en train de se moquer en disant, même un démon qui croit que Dieu existe, agit en conséquence de sa foi en tremblant. Vous voyez l'idée? Et toi, enfant de Dieu, qui prétends avoir la foi mais tu n'as aucune œuvre de foi, tu ne vaux pas mieux qu'un démon. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Verset suivant. Mais veux-tu savoir, ô homme vain? Donc là, il parle à... Et regardez, ça paraît un peu rude parce que Jacques, il est un peu rude. Vous voyez? Ça paraît un peu rude parce qu'il est en train de dire, toi qui crois en Jésus-Christ mais qui n'agis pas en conséquence, tu es un homme vain. Que la foi sans les œuvres est morte. Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. C'est beau, hein? Dites, je progresse à tous égards. Gloire à Dieu. Et l'Écriture a été accomplie qui dit, et Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé ou compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu. Dites, je suis un ami de Dieu. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc il dit, vous croyez, c'est bien. Les démons aussi croient et eux en plus, ils agissent dans leur croyance en tremblant devant Dieu. Parce que si un démon ne croyait pas en Dieu, il dirait juste, je m'en fous de Dieu. Tandis que lui, il sait très bien le démon et il agit en conséquence en ayant peur. Vous vous rendez compte? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons discipliner nos vies. Dites, je suis discipliné fort. Vous voyez, c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on se construit, c'est pour ça qu'on va dans les Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible va nous montrer qui on est vraiment. Le vrai vous, dites le vrai moi, est justifié, puissant, fort et sans limite. Et c'est ça la réalité. Quand vous voyez cette vérité-là, et que vous croyez, vous mettez votre foi dans ça et vous dites c'est vrai, vous agissez en conséquence. Vous dites non, rien ne peut me stopper, Dieu guide mes pas. Quelqu'un vous retire un contrat, imaginons, vous dites j'en aurai un meilleur au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que ça marche. On est enfant de Dieu, amen. Prenez Hébreux 11 cette fois, toujours, mais 8 à 12. On va voir Abraham justement. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit. C'est le premier truc. Il a été appelé. Gloire à Dieu, Dieu m'a appelé. Et il reste chez lui. Non. Obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage. Il s'en alla, ne sachant où il allait. Des fois, vous êtes comme ça. Où il semble que Dieu est en train de vous conduire dans un endroit où vous ne savez pas où vous allez. Allez-y. Allez-y. Dieu vous guidera. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Oh, c'est beau, ça, c'est beau. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Estimez fidèle Dieu. Dieu est fidèle. Et il a accompli sa parole au travers de Jésus-Christ. Maintenant, c'est déposé à l'intérieur de vous. Vivez en conséquence. Vous savez, la Bible dit, nous sommes saints parce qu'il est saint. Pas parce qu'on fait des bonnes actions. Vous voyez la différence? Donc, vu que maintenant, on a été transféré dans la sainteté de Dieu, maintenant, on peut agir dans la sainteté. C'est-à-dire qu'on sort de la sainteté, vous comprenez? On n'y rentre pas. La sainteté est à l'intérieur de nous, elle coule dans notre intelligence et nos actions. Amen? Ok, on va juste... C'est un petit peu... Ouais. Ok, on va prendre juste Luc 1 et 2, et vraiment chapitre 1 et chapitre 2. Vous allez voir quelque chose, c'est un peu une longue lecture, mais j'aimerais qu'on la voie ensemble, parce qu'elle est très importante, très très importante. Tu peux avancer un petit peu, juste avant verset 5 peut-être. Voilà, parfait. Au jour d'Hérode, l'Hérode c'était un roi, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Notez bien, ça c'est très important comme endroit. Un sacrificateur, il rentrait dans le temple et il balançait de l'encens, il faisait des trucs comme ça. Et sa femme était des filles d'Aaron et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Notez quelque chose, juste parce que vous êtes des gens bien, ne veut pas dire que forcément le diable va vous éviter des problèmes. D'accord ? C'était des gens parfaits devant Dieu, sans reproche. Sans reproche ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas de péché, ça veut dire qu'ils purifiaient leur péché constamment. Et pourtant, sa femme était stérile. Et ils étaient tous deux forts, avancés en âge. Regardez bien, c'est important. Hein. Or, il arriva, pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu, dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Donc en fait, il devait prendre un espèce de parfum, n'est-ce pas, qui brûlait, puis il devait l'amener devant Dieu, comme ça, en rentrant tout seul dans l'intérieur du temple. Donc il n'y avait personne avec lui. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Donc au moment, et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Donc ils allaient offrir ce truc, un autel c'est un truc comme ça, et il était posé comme ça, l'ange. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Rappelez-vous, les anges ne sont pas des petits êtres qui brillent hein, dans la Bible. C'est plus des trucs avec des yeux partout, et des trucs très terrifiants comme ça. Donc ça, t'imagines, tu rentres dans un truc où il n'y a pas de lumière, tu offres ton parfum, puis là tu vois ça. Je pense que ça doit être quand même très apeurant, effectivement. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Notez bien ce que l'ange dit. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Le terme plusieurs veut dire beaucoup. Énormément de gens seront très réjouis. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni cervoise. Et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. Petit point, il a été rempli de l'Esprit Saint. Quand c'est, vous savez? Dès le ventre de sa mère. Et quand ça arrivait au niveau pratique? Qui a une meilleure idée? C'est quand Marie est allée parler à Élisabeth. L'Esprit Saint est sorti de Marie et est rentré dans Jean. Ce qui montre que Marie était probablement déjà remplie de l'Esprit Saint avant les autres disciples. Point intéressant, hein, parce que seulement nous qui sommes remplis d'Esprit Saint pouvons distribuer l'Esprit Saint à d'autres. Ou alors c'était Jésus à l'intérieur de Marie qui a transmis directement à Jean l'Esprit Saint. C'est beau, hein? Ce qui vous montre quelque chose, tous ceux qui disent qu'un bébé dans le ventre, même s'il vient d'être fécondé, il n'a pas de valeur, c'est faux. Parce que Jésus était à peine, peut-être un grain de riz, même pas, et il a réussi à transmettre l'Esprit Saint à quelqu'un. Vous voyez? Donc les gens qui disent non, mais c'est juste un amas de cellules parce qu'il n'a pas de nerfs, c'est faux. C'est faux. L'Esprit Saint peut déjà vivre en lui. Amen. Vous qui êtes parents, quand vous êtes enceinte, votre fils et votre fille qui grandit en vous, dès la fécondation, peut être rempli de l'Esprit Saint. Ne vous méprenez pas. C'est pour ça que le baptême de l'enfant est important. Baptisez vos enfants. Je sais que chez les évangéliques, on dit toujours non, on ne peut pas faire de baptême d'enfant, c'est faux. On doit baptiser les enfants. C'est un acte de foi qui vient du parent. Amen. Car il sera grand devant le Seigneur, ça on a vu. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. C'est beau ça, hein? Et il ira devant lui dans l'esprit de la puissance d'Élie pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et notez bien, donc il a dit, tout, en fait l'ange, là, notez bien ça, c'est important, hein? Vous suivez, hein? L'ange vient de dire toute la vie de Zacharie. Toute la vie, de Jean, merci. Toute la vie de Jean, depuis comment il va être fécondé, son enfance, sa croissance, son ministère et la fin de sa vie. L'ange vient de tout dire, on est d'accord, hein? Okay. Et Zacharie dit à l'ange, « Comment connaîtrais-je cela? Car moi, je suis un vieillard et ma femme est fort avancée en âge. » Incrédulité. Notez bien ce qui se passe. Et l'ange répondant lui dit, « Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. » Vous notez qu'il n'a pas répondu à Zacharie de sa requête. La requête de Zacharie, c'était, « Comment vais-je savoir qu'un truc pareil est possible ?» Et l'ange lui dit, « Je suis l'ange du Seigneur. » Il ne lui répond pas sa requête. Il ne rentre pas dans son incrédulité. C'est beau ça, hein? Qui me tient devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. Donc il dit, je t'annonce une bonne nouvelle et tu m'embêtes. Vous voyez? Il lui dit ça, j'ai été envoyé pour ça. Regardez. Et voici, donc notez qui, regardez bien, c'est très beau. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Donc il parle de quoi ces choses? Et le ministère, l'ensemble de la vie. L'ange avait dit l'ensemble de la vie. Amen. Vous êtes là? Il avait transmis l'ensemble de la vie. Donc il a dit, jusqu'à ce que toute la vie de ton fils Jean soit accomplie, tu ne parleras pas. Parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront. Notez quelque chose. L'ange vient de dire un truc. Parce que souvent on a dit, l'ange punit Zacharie pour son incrédulité. Ou pire, le fait qu'il soit muet jusqu'à la naissance de l'enfant, c'est le signe que Dieu donne au travers de Gabriel à Zacharie. C'est souvent ce qu'on a dit. C'est-à-dire que Zacharie dit quel sera le signe, que, comment pourras-tu me montrer que c'est vrai? Il dit, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais il n'a pas dit qu'il sera muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Il a dit, tu seras muet jusqu'à l'accomplissement de la vie entière de l'enfant. Vous notez ça? Il a dit, l'entier du ministère de l'enfant doit s'accomplir. Donc, l'âge adulte, donc on parle d'une trentaine d'années muet. Mais notez, il a mis une condition au fait d'être muet. Parce que tu n'as pas cru mes paroles. Vous notez jusqu'ici. Donc l'ange, en gros, il est en train de dire, soit tu resteras muet jusqu'à temps que l'enfant il finit son ministère, c'est-à-dire des dizaines d'années, voire plus, des décennies, ou alors tu crois en mes paroles. Tu choisis. Et l'ange, là, il se retire. Il s'en va. Et là, après, Zacharie, il sort, puis il fait... personne qui... Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et il va et il met enceinte sa femme. Maintenant, j'aimerais qu'on voit quelque chose. C'était quoi les deux conditions pour qu'il puisse reparler? Qu'il croit Gabriel ou que tout le ministère s'accomplisse. Parce que Gabriel a dit, tout ça, ça va arriver. Jusqu'à temps que tout ça arrive, tu seras muet. On est d'accord? Retournez juste. Tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Notez qu'il n'a pas dit jusqu'à la naissance de l'enfant. Il a dit toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Gabriel ne voulait pas qu'il parle incrédulité sur son propre fils. Hein, peut-être qu'il n'est pas appelé par Dieu, Donc il l'a rendu muet jusqu'à temps qu'il croit. Ou alors que tout s'accomplisse, pour pas qu'il soit négatif sur son fils. Vous voyez comme un papa peut, ou une maman d'ailleurs, peut être négatif pour son propre enfant? Faites attention les parents quand vous parlez. Ouais, ça va pas avec ma fille, ça va pas. Chaque fois, c'est une parole de malédiction qui tombe sur elle, sur lui, chaque fois. Okay? Regardez ce qui se passe. J'aimerais qu'on voie cette merveille. Vous êtes prêts? Oh, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. On va aller directement au verset 57. Attendez voir, un instant, donnez-moi deux secondes juste. Parce que l'ange, en fait, il a dit plein de trucs intéressants. L'ange, tu peux prendre juste Malachie 3.1. L'ange, en fait, il a fait une description de prophétie biblique quand il a parlé à Zacharie. Il a dit des prophéties de la Bible. Voici, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant toi et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple. Vous voyez qu'il a dit qu'il préparerait le chemin du Seigneur. C'est une prophétie de l'Ancien Testament, ça. Prenez Malachie 4, 5 à 6. Ah bon? C'est parce que vous êtes sur la NBS, je pense, c'est pour ça. Ah ouais? Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Vous avez remarqué que l'ange, il a dit, il sera comme Élie le prophète. C'était quelque chose de l'Ancien Testament. L'ange, il a pris des bibles, des versets de l'Ancien Testament, il l'a dit à Zacharie. Vous vous rendez compte? C'est beau ça, hein? Et maintenant, j'aimerais qu'on voie quelque chose, parce que Zacharie, sa femme, était vieille et stérile. Mais dans la Bible, il y a plein de femmes vieilles et stériles qui ont eu l'enfant. Sarah, Genèse, chapitre 17, 15 à 17. C'est beau, hein? Dieu, je suis fort et construit. Regardez. Dieu dit à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu n'appelleras plus du nom Sarai, mais Sarah sera son nom. C'est intéressant, en français, Sarai et Sarah, on dirait qu'on a enlevé une lettre pour venir à Sarah, alors qu'en fait, en hébreu, il rajoute une lettre, et c'est la lettre de la grâce. C'est beau, ça, hein? C'est beau, hein? C'est très beau. Verset suivant. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. On va prendre la mère de Samson dans Juges 13, 2 à 5. Donc en fait, dans la Bible, il y a plein de femmes stériles qui ont des enfants. Et il y avait un homme de Tsora, de la famille des Danites, et son nom était Manoah, et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'enfanteras pas, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. » Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. Vous voyez, déjà à l'époque, le Seigneur disait aux femmes enceintes de ne pas boire d'alcool. C'est intéressant ça, hein? Et la science moderne a dit, oups, il faudrait peut-être qu'on arrête. Intéressant, hein? Oui, quand une femme enceinte ne devrait pas boire d'alcool. C'est beau, hein? Et une dernière, Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 1, 10 à 20, on va pas tout lire, mais en gros, elle pleure, et le sacrificateur pense qu'elle est ivre. C'est très très drôle comme histoire. Et elle avait l'amertume dans l'âme, et elle priait l'Éternel et pleura abondamment. Et elle fit un vœu, dit « Éternel des armées, si tu veux regarder à l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Et il arriva que comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie, c'était le pasteur local, on va dire. Et Anne parlait dans son cœur, ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Donc elle était comme ça. Vous voyez un peu l'idée? Et Élie pensait qu'elle était ivre. C'est marrant ça. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Ôte ton vin d'avec toi. Et Anne répondit et dit, non, mon Seigneur, je ne suis une femme qui a l'esprit accablé. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial. C'était des femmes de mauvaise vie, on va dire. Car c'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. Et Élie répondit et dit, va en paix, excusez-moi, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. C'est beau, hein? Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et la femme s'en alla en son chemin, et elle mangea, et elle n'eut plus le même visage. Vous notez qu'elle a agi sur sa foi, elle aussi, hein? Elle était là, le prophète m'a dit que c'est bon, donc je m'en fais. C'est beau, hein? Elle se répandait son cœur comme ça encore et encore, et il a fait, femme ivre, va-t'en et ôte ton vin. Et il fait, non, mais je ne suis pas une femme ivre, je suis une femme désespérée. Bouffon, je pense pas qu'elle a dit ça, voyez, mais elle était là. Mais non, mais tu comprends pas, je ne suis pas ivre, je ne suis pas une de ces filles qui va au mad. Je plaisante, Gloire. Vous me comprenez un peu l'idée, n'est-ce pas? Je ne suis pas une fille de Bélial. Vous voyez, déjà à l'époque, il y avait des trucs comme ça, vous vous rendez compte? Il y avait des endroits où on savait que les femmes allaient là-bas pour faire des trucs pas bien. C'est quand même, vous voyez comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vraiment vrai. Il n'y a rien de nouveau, amen. Oh là là. C'est des gens ici qui sont allés au mad, vous êtes pardonnés au nom du Seigneur Jésus. Prenez-le pas mal pour vous, c'était une blague. Et donc, elle se lève, elle fait, le prophète m'a dit que c'est bon, ok, je m'en vais. Et elle mange, elle boit, elle est contente, elle est enceinte. C'est beau, hein? Maintenant, j'aimerais qu'on voie quelque chose. Revenons sur l'ange, donc Luc 1, 57. Rappelez-vous, l'ange a dit à Zacharie, soit tu es muet, jusqu'à ce que tout ce que j'ai dit s'accomplisse, mais la condition de ce mutisme vient du fait que tu ne crois pas ma parole. Et notez bien que la parole que l'ange a donnée était en fait des paroles de la Bible. Hein. D'accord? Il a sorti des paroles de la Bible, l'ange, essentiellement. Regardez ce qui se passe. Or, le temps où elle devait donc accoucher fut accompli pour Élisabeth et elle mit au monde un fils. Regardez ça. Et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté sa miséricorde envers elle et ils se réjouirent avec elle. Donc, il y a plein de gens qui disent « Oh !» Zacharie allait être muet jusqu'à la naissance du petit. Ça dit quelque chose, il n'y a pas de gens qui disent ça. Faux. Et il arriva qu'au huitième jour, il vint pour circoncire le petit enfant. Donc le huitième jour après la naissance, Zacharie était encore muet. Donc là, ça prouve d'une manière hors de tout doute que l'ange n'est pas en train de dire « tu vas être muet jusqu'à la naissance de l'enfant ». Vous voyez? Là, on est sûr. Vous avez suivi jusqu'ici? Et là, j'aimerais que vous voyez quelque chose. Parce que Zacharie, il avait construit sa foi, sa très sainte foi, dans la parole de Dieu. Quand l'ange lui a dit « soit tu me crois, soit tu es muet », il a fait « bon, moi, je crois que j'ai vite choisi. Hein. Je vais croire, parce qu'être muet 30 ans, c'est bon. » Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je peux vous dire ce qu'il a fait. Il allait voir les Écritures. Il allait se construire dans la parole de Dieu énormément, énormément. Et là, il va faire une action de foi. Mais vous vous rappelez, la foi sans œuvre est morte. Donc, sa foi, le fait qu'il croit en l'ange, devait se manifester d'une manière ou d'une autre. Et là, on va voir. Regardez ce qui se passe. Et il arriva qu'au huitième jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant. Et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Donc les gens, ils disaient, oh, ben félicitations, Elisabeth, ils prennent le petit bébé. Et ils disent, on va le circoncire. Ben, vu que son père s'appelle Zacharie, on va l'appeler aussi Zacharie. Maintenant, comment l'ange a dit qu'il devait s'appeler ? Ok. Entre vous et moi, je le trouve très comique qu'ils aient réussi à concevoir un enfant les deux sans que monsieur parle. Ça devait être quelque chose de très comique au niveau pratique. Mais ça arrivait, donc du coup, voilà. Et regardez ce qui se passe. Et sa mère répondant dit, non, il sera appelé Jean, reste là. Il dit, non, on doit l'appeler Jean, pas Zacharie. Il savait écrire encore, hein, Zacharie. Donc il a sûrement écrit à sa femme, ton fils s'appellera Jean. Notez qu'il n'a pas dit à la femme qu'il devait s'appeler Jean. Hein. Il a dit au père. C'est intéressant ça. Hein. Une discussion d'une autre fois. Et regardez ce qui se passe. Donc là, il faut comprendre que dans la culture juive de l'époque, il était absolument interdit de donner au premier-né mâle d'une famille le nom d'une personne qui n'était pas dans la parenté proche. C'était interdit, c'était une injure à la culture de faire ça. Donc ils ont dit Zacharie parce que c'était le plus proche, mais ils auraient pu prendre le nom du grand-père ou quelque chose. Hein. Ça c'était bon, hein, ils avaient le droit. Mais ils ne pouvaient pas prendre un nom au hasard. Donc si le bébé naissait, de l'appeler Jean aurait été presque blasphématoire dans la tête des gens. C'était gravissime. C'est pour ça que, sans même demander au père, tout le monde a dit « on va l'appeler Jean ». On va l'appeler Zacharie, excusez-moi. Comment ça se fait ? C'était un consensus culturel, c'est normal. Mais nous ne sommes pas de ce monde, amen. De la même manière que c'est normal d'être malade l'hiver, ce n'est pas pour vous. Okay ? Regardez ce qui se passe. Et sa mère répondant dit « non, il sera appelé Jean ». Et ils lui dirent « il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom ». Ils disent « mais montre-nous dans la parenté et on va le faire avec plaisir ». Mais non ! Et là, regardez ce qui se passe. Et ils firent signe à son père qui déclara qu'il disait « Dis-moi, Zacharie, comment tu veux qu'on l'appelle ?» C'est là, bon, ta femme est le délire. Comment tu veux ? Elle vient d'accoucher à 65 ans, donc. On la pardonne. C'était ça l'idée. Il disait là, bon, toi, tu veux quoi ? Et regardez ce qui se passe. Rappelez-vous, c'était soit il attend la fin du ministère de son fils, soit il croit l'ange. Mais qu'on croit, qu'est-ce qui doit suivre pour que notre foi soit vivante ? Des œuvres. Regardez ce qui se passe. Ouh, c'est merveilleux. Dites, c'est merveilleux. Regardez ça. Reste bien sur le 63. Hein. Et ayant demandé des tablettes, il écrivit disant, Jean est son nom. Notez qu'il n'a pas dit appeler le Jean. Il a dit, c'est son nom. Il n'a pas dit, je vous demande de l'appeler Jean. Il a dit, c'est moi qui dis qu'il s'appelle Jean. Il n'a pas dit, on l'appellera Jean. Il a dit, Jean est son nom. Et ils furent, le tout s'étonner, il est vraiment très, très bateau. C'est, ils furent abasourdis, si on traduit littéralement. Ils étaient là, mais c'est, on n'a jamais vu ça dans tout Israël, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens étaient « wow ». Regardez, là, il vient de faire quoi ? Il vient d'agir dans sa foi. Il a cru la parole de Dieu et il a agi en conséquence d'une manière tangible. Regardez ce qui se passe, verset suivant. « À l'instant même, vous voyez, sa bouche fut ouverte et sa langue déliée et il parlait louant Dieu. » Et là, on va voir qu'il avait médité les Écritures encore et encore. Regardez ce qui se passe. Parce qu'il va louer le Seigneur. Tous les voisins furent saisis de crainte. Pourquoi ? Parce que les gens savaient qu'il était censé être muet jusqu'à la fin. Regardez. On s'entretenait de toutes ces choses par tout le pays des montagnes de la Judée. Et ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant, « Que sera donc cet enfant ?» Ah, c'était l'arrivée du Seigneur, c'est pour ça. Et la main du Seigneur était avec lui. Notez maintenant, et Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa. C'était que Dieu avait... C'est beau ça. Il s'était rempli de la parole de Dieu et au moment où il a pu rouvrir sa bouche, c'est seulement la foi et la parole qui est sortie. Regardez ce qui s'est passé. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple. Il était allé prendre les prophéties bibliques de Malachie. Il était prendre les prophéties bibliques d'Élie. Il était prendre les prophéties bibliques d'Esdras. Et il a médité sur ça, il a dit « maintenant que mon fils, le précurseur du Messie est là », ça veut dire que le Messie arrive bientôt, vous voyez ? Et il a dit « béni, notez, Jésus n'était pas encore né à ce moment-là, hein. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple. » Comment est-ce qu'il peut dire ça alors que Jésus n'est pas encore né? Parce que c'était tellement réel dans son esprit, vous voyez? Est-ce que la réalité de Dieu est réelle dans votre esprit? Au point que vous pouvez dire « Je suis guéri, j'ai été guéri » même si maintenant vous sentez encore une petite douleur. Vous pouvez dire « J'ai gagné cette âme » même si maintenant vous n'avez pas encore, vous voyez cette personne. Amen. Ah, gloire à Dieu. Il nous a suscité une corne de délivrance. Ça, c'est quelque chose d'un psaume de la maison de David, son serviteur. Ça veut dire qu'il a repris les Écritures et il a parambulé les Écritures pendant ces 9 mois. Et il attendait juste une occasion de manifester sa foi. Et cette manifestation, c'était dire « Je crois l'ange, je crois les prophéties qu'il a dit et d'où il a tiré ses prophéties. Et j'agis en conséquence maintenant en disant son nom est Jean. » Et à l'instant même, boum, sa langue s'est déliée. C'est beau ça, hein? Regardez ça, verset suivant. Ce qu'il avait dit par la bouche des saints prophètes. Ah, il a été étudié les prophètes, vous voyez, qui ont été de tout temps. Oh, une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, et de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis. C'est beau, hein? De le servir sans crainte, en sainteté, pardon, et en justice devant lui tous nos jours. Et regardez ce qu'il fait maintenant. Il va reprendre les exactes mêmes prophéties que l'ange lui a données. Et là, il se tourne vers le petit enfant et il le prend. J'imagine, je vois le père. Sa langue vient d'être déliée, les gens doivent être à genoux ou par terre sous la puissance de Dieu, tellement ça devait être un moment fort. Et il lève l'enfant et il dit, « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Vous avez remarqué qu'il n'a pas, il n'a pas mentionné l'exact verset. Le verset dit qu'il aplanira les voies du Seigneur. Et lui l'a dit, tu prépareras ses voies. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement médité ça qu'il a pu le ressortir avec ses propres mots. Vous voyez, c'était devenu une telle réalité. Si par exemple, maintenant, je prends pour cette voiture, il y a une voiture, une belle BMW dehors, là. Je peux lire la description officielle. Cette BMW, coupée, enfin coupée, j'en sais rien en fait. Mais cette BMW de couleur bleu marine C293 est disponible. Vous voyez? Ou alors, je l'ai tellement regardée que je peux dire, oh, elle est d'un bleu magnifique qui me fait penser à l'océan. Vous voyez? Les deux descriptions sont justes. C'est ce qui est arrivé là. Il avait tellement médité. Verset 77. Pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés. L'ange n'a pas dit ça. Comment ça se fait qu'il savait ça? Parce que c'est dans les Écritures. Vous voyez? C'est magnifique. Par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lequel l'Orient, d'en haut, nous a visités. Il parlait d'étoiles qu'elle est arrivée, ça. Afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Comment il savait ces choses-là? Parce qu'il a étudié et il a agi en conséquence. Il était tellement rempli de paroles et de foi et de grâce qu'il a dit, je dois l'appeler Jean. Son nom est Jean. Beau, hein? Alléluia. Et l'enfant croissait, se fortifiait en esprit, et il fut dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. C'est quelque chose, vous vous rendez compte? Dites, Jésus-Christ est mon Seigneur. Dites, je suis sans limite. Dites, j'ai été transposé dans la parole de Dieu. C'est pour ça que vous prenez les Écritures, vous voyez? Et vous méditez encore et encore et encore sur ces questions. Vous laissez ces choses renouveler votre intelligence. Ne vous méprenez pas, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Vous devez juste le laisser être au maximum à l'œuvre, lui donner le plus de place possible. J'ai été parler avec un prêtre il y a peu. Je lui dis, je ne sais pas si vous savez ce que c'est de parler en langue. Il me regarde et il se met à prier en langue. Un prêtre catholique. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est disponible même partout. Il prie en langue. Il me dit, je prie énormément en langue. J'aime prier en langue. Il me dit, ah, je prie beaucoup en langue. Vous vous rendez compte? Pour ceux qui disent que c'est un truc de cinglé, je suis là. Alors, si même les églises traditionnelles le font, c'est qu'il y a peut-être un truc de juste. Amen. Donc Jésus-Christ est votre Seigneur, vous êtes motivé par sa grâce. Et vous savez, vous devez prendre part. C'est pour ça que je dis aux gens de venir prendre le pain et le vin, vous voyez? Parce que c'est la participation au sacrement divin de la communion. Amen. En tant que corps du Christ, physique et mystique. Physique, ça veut dire tous les chrétiens physiques qui existent. Mystique, ça veut dire spirituellement, on a part au corps du Christ qui est au ciel. Amen. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Dites, j'avance de tout domaine. Dites, je ne me laisse influencer que par la parole de Dieu. Ça doit être votre vérité, c'est-à-dire pas que votre vérité et qu'une personne a sa vérité à eux. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une vérité valable pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. La vérité est toujours valable. Mais ça doit être votre vie, amen, de parole, de construction. Quelles sont les informations qui viennent dans votre esprit? Est-ce que c'est des informations de construction? Ou est-ce que ces informations qui vont vous détruire? Filtrez ces choses-là. Passez-les au crible. Ne laissez pas n'importe quoi pénétrer votre intelligence, parce que vous passeriez à côté de ce que Dieu a pour vous garanti. Vous devez laisser la réalité de Dieu venir faire étape dans votre cœur et vous construire dans la réussite que vous êtes censé être. Soyez l'homme que vous êtes censé être. Soyez la femme que vous êtes censé être en Dieu. Et là, je ne parle pas des attributs de genre sociétaux. Je parle vraiment de soyez l'individu, devrais-je dire, que Dieu vous a appelé à être. Dieu vous a appelé à être vous, quelqu'un. Dieu vous a appelé à être vous, une personne spécifique qui va porter un... Et vous êtes comme un atome ou une cellule dans le corps du Christ. Sans vous, il y a un souci. Vous comprenez ? Vous avez une fonction spécifique. Personne n'est comme vous. Personne ne peut faire ça comme vous. Personne ne peut parler comme vous. Personne ne peut réfléchir comme vous sur cette situation. Vous êtes unique. Dites, je suis unique. Et ainsi est mon appel en Dieu. Redites-le, je suis unique. Et ainsi est mon appel en Dieu. Il n'y a personne comme vous. Personne ne peut le faire. Vous comprenez à quel point c'est crucial ? Les gens disent, si je ne le fais pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Il peut, attention, mais de manière générale, non. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. C'est pour ça que Dieu a dû donner une grâce très spéciale à Marie pour qu'elle puisse faire ce que Dieu l'a appelée à faire. C'est beau, hein ? C'est pour ça qu'il dit, toi qui es hautement favorisée. Ça paraît bateau de dire comme ça, mais elle était hautement graciée. Et la seule autre fois qu'on voit ce passage dans les Écritures, ce terme hautement gracié, c'est quand il parle à l'Église, née de nouveau. C'est beau, hein ? Dites, je suis hautement gracié. Alléluia. Ça veut dire que vous ne pouvez que réussir, vous comprenez ? Vous pouvez seulement aller dans une optique de Dieu est mon partage. Vous voyez, vous dites, je cherche un travail, je cherche à me marier, je cherche toutes ces choses, gloire à Dieu. Ayez en tête ce que Dieu veut pour vous. Vous savez quoi ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu dirige vos pas. Croyez que ce qui vous arrive vient de Dieu. Alors, je ne parle pas des problèmes qui viennent de Satan, parce que la Bible nous montre clairement comment identifier ce qui vient du diable et de Dieu. Mais par exemple, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'arrivez pas à obtenir un contrat de travail ou une entreprise, ou pour ceux qui cherchent un apprentissage dans une entreprise, c'est Dieu qui a dirigé vos pas. Partez du fait que c'est ça. Et rendez gloire à Dieu. Et dites merci Seigneur d'avoir dirigé mes pas. D'accord ? Vous voyez l'idée ? Partez de ce fait-là. Moi, par exemple, il y a récemment, dans mon entreprise, quelqu'un qui m'a dit, mais finalement, on n'aimerait pas trop travailler avec un assureur. Ce n'était pas moi spécifiquement qui ne voulait pas, mais un assureur dans ce domaine-là. Et je dis, gloire à Dieu, j'aurais mieux qui viendrait. Qui viendra, pardon. J'aurais mieux qui arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu m'a appelé à faire ça et je le fais de tout mon cœur. Et le moment où Dieu me dit stop, vous savez, vous pouvez demander à mes parents, hein, je suis tellement déterministe sur ça. Si demain, je sais que Dieu, imaginons, Dieu m'appelle à aller en Irak, dans des montagnes, pour parler à des fermiers, ou plutôt des bergers dans les montagnes d'Irak, si je sais que c'est Dieu, après-demain, je suis loin. Je suis décisif à ce point. Quand Dieu m'a dit de prendre un appartement sur Lausanne, c'était « Oui, chef, mais t'as pas de travail, je sais. » Oui, c'était vrai ou pas, les parents ? Je prends ta question à la fin. J'avais pas de travail fixe. Et Dieu m'a dit « Prends un appartement sur Lausanne. » J'ai fait « Ok. » Donc, j'ai commencé à chercher des appartements pas chers parce que je n'avais pas encore renouvelé mon intelligence comme il fallait. Et je trouvais rien. Je disais, mais Dieu m'a dit. Vous voyez un peu dit. Dieu m'a dit de prendre un appart. Je sais qu'il m'a dit ça. Si je savais tout ce qui m'attendait après, par contre, ça c'est une autre question. Gloire à Dieu. Et donc, Dieu m'avait dit, prends un appartement. Je dis gloire à Dieu. Et je disais, mais comment ça se fait, Seigneur, que je trouve rien ? Je connais ta voix. Je reconnais ta voix, Seigneur. Je sais comment entendre ta voix. Comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu ? C'est à force de l'entendre dans la parole. En fait, à force de l'entendre dans la parole, de voir des choses écrites de Dieu et de les appliquer, une fois qu'il vous parle, vous savez discerner que c'est lui. Et ça vient avec le temps. Glorifiez-vous dans la parole. Et apprenez à écouter cette voix intérieure qui vous parle. C'est ce que les gens appellent des fois la conscience. Alors attention, parce que la conscience humaine peut être altérée ou désaltérée, justement. Il y a des gens qui ont des consciences trop fortes, et des gens qui ont des consciences très petites. Mais écoutez cette voix intérieure. C'est souvent Dieu. Et si vous n'êtes pas sûr, vous filtrez avec la Bible. Est-ce que ça tient la route avec ce que la Bible dit ? Et si vous n'êtes pas sûr, vous demandez à un pasteur ou un ami qui est chrétien. Amen ? Ça marche ? Super. L'Esprit de Dieu répond à vos questions. Et donc, notez quelque chose, ce qui s'est passé. Je regardais des apparts comme ça, et là, le Seigneur me dit, tu es trop radin, augmente le loyer. Tu dois avoir un meilleur appart que ça. J'étais là, ah, ok. Là, je dis à mes parents, je vais augmenter le loyer, je vais avoir un meilleur appart. Et mon papa, c'est assez chouette parce que il va dire, oh, si c'est Dieu, ben, ça arrivera. Dans le sens, je ne vais ni l'empêcher, ni le... Si c'est Dieu, c'est Dieu, quoi. Et maman, elle était là. Elle a fermé. Non, c'était quoi déjà ? C'est ça que je dis. Genre, fermer sa bouche. Mais dans son cœur, elle était là, ouh, j'espère qu'il ne sera pas déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle était là, je ne vais rien dire parce que si c'est Dieu, je ne veux pas interrompre, comme Zacharie, avec mes paroles incrédules. Et qu'est-ce qui se passe? Je trouve l'appart magnifique. En tout point, c'était ce que je voulais. Mais quand je vous dis en tout point, c'est en tout point. Il n'y avait aucun point qui me décevait. Celui où je suis maintenant, si jamais. Aucun point qui me décevait. Je dis, je le prends. Et j'avais toujours pas de feuille de paye. Donc, du coup, j'ai dû me débrouiller. Et je parle avec la propriétaire. Elle vient du Jura, là où mon papa vient. Et ma maman aussi. Gloire à Dieu. On a trouvé un terrain d'entente sur là. Et dans les 3 jours, j'avais mon appartement. C'était fait. Et juste après, on m'a donné un contrat de travail permanent. Vous voyez comme Dieu est bon? Dieu dirige vos pas. Dites Dieu dirige mes pas. Tout ce que vous avez à faire, la Bible dit qu'il a préparé un chemin. Tout ce que vous avez à faire, c'est y marcher. Il est étroit, attention, mais marchez-y. Et vous dites, et si je stagne, j'attends juste comme ça qu'il vienne me prendre la main? Non. Non, le chemin, c'est lui. C'est lui le chemin. Amen. Il n'a pas besoin de vous accompagner sur lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Dites, je suis vers le Père maintenant. Dites, je suis vers le Père. Dites, je suis arrivé vers Dieu. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. On va prendre la Sainte Communion. Levez-vous, levez-vous. Levez vos mains vers Dieu et bénissez Dieu pour sa vie en vous. Bénissez Dieu pour sa parole qui est rentrée à l'intérieur de votre intelligence. L'Egra anse.